Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super, même si je vous avoue que je suis un petit peu embêté parce que c'est la deuxième fois que j'enregistre cet épisode, étant donné que j'ai eu un énorme problème technique la première fois. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, au moment où j'enregistre, l'épisode devrait déjà être sorti, donc bon, c'est un petit contretemps un petit peu embêtant. Mais voilà, je ne m'en fais pas, on va y aller et on va parler donc des films. Voilà, en tout cas, un premier épisode sur des films sortis en ce mois d'avril. Alors, je le dis tout de suite, il y a certains films que j'ai pas du tout eu le temps d'aller voir. J'ai très très envie de les voir, hein. Je pense à Madame Hoffman, voilà, je pense à Rosalie notamment, je pense à Le Mal n'existe pas, le nouveau Hamaguchi, ce qui sont des films que j'ai très très envie de voir. Donc, voilà, ça a été quand même un mois de chargé le début du mois d'avril, notamment avec mon opération des dents de sagesse, voilà, donc qui fait que j'ai dû me reposer pendant une semaine. Voilà, mais j'avais déjà vu des films qui sortaient début avril en projection presse, donc du coup je me suis dit pourquoi pas en faire un épisode, voilà, vu que j'ai assez de films, hein, j'en ai trois comme la dernière fois, vous l'avez vu, et donc on va y aller dans l'ordre chronologique comme la dernière fois, et on va commencer par un film que j'attendais tout particulièrement, puisqu'il s'agit du nouveau film, en tout cas pas du nouveau, mais du premier film de Florent Bernard, à savoir Nous les Leroy.
Imagine le week-end, il se passe pas comme t'as prévu.
Ouais, genre si elle te largue.
Vous voulez pas essayer de me soutenir de temps en temps?
On pourrait peut-être continuer à vivre ensemble sans être en couple.
C'est pas ce que je te demande. Je te demande de donner une chance à notre couple.
Non, tu m'as demandé de donner une chance à la famille.
Mais putain, vous êtes grands, faites les grands à un moment. Comment on est censé faire, nous, si vous faites pas les grands?
Sandrine Leroy annonce à son mari Christophe qu'elle veut divorcer. Leurs enfants ont bientôt l'âge de quitter la maison. Dans une opération de la dernière chance aussi audacieuse qu'invraisemblable, Christophe organise un week-end pour sauver son mariage. Un voyage passant par les endroits clés de l'histoire de leur famille. Un voyage qui ne va pas être de tout repos. Alors, déjà, avant de commencer, très important, un élément de contexte, qui est Florent Bernard, aka Flaubert, voilà, de son nom plus connu sur Internet. Du coup, comme je le dis, bah, c'est un monsieur qui vient d'Internet, en fait, qui a collaboré absolument avec tous les plus grands youtubeurs, en tout cas en termes d'abonnés, etc. Puisque c'est voilà, identifié en tout cas par beaucoup, beaucoup, beaucoup de youtubeurs comme le meilleur auteur d'internet. Donc pour vous faire un petit peu quand même, voilà, c'est son CV sur internet. Il a beaucoup travaillé chez Golden Moustache. Il a fait bloquer la série de Orelsan notamment. Après, voilà, sans forcément être sur des projets, il a beaucoup collaboré avec pas mal de youtubeurs, hein, genre je pense à McFly Carlito notamment, si vous voyez dans les vidéos roast. Voilà, pour le coup j'avoue je suis pas trop fan de leur contenu, hein, clairement actuellement je suis pas fan de la tournure qu'ils prennent leur chaîne YouTube. Néanmoins quand même j'aime beaucoup ces vidéos roast, justement avec, parce qu'il y a la patte de Flaubert, parce qu'il a toujours cette petite punch, cet humour qui est bien propre à lui. Donc voilà, pour le coup j'adore, voilà, j'aime beaucoup cet auteur. Et en fait c'est tout con, hein, mais moi j'ai grandi avec YouTube. J'ai grandi justement avec ces vidéos-là, avec les vidéos que Flaubert a écrites. Donc du coup, j'avais très 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 hâte de voir ce film. Voilà, donc après YouTube, hein, pour finir un petit peu son parcours, donc il a commencé à partir sur des séries, voilà, pour le coup, au début chez Canal+, hein, je pense notamment à La Flamme, voilà, la série de Jonathan Cohen, où il a écrit sur le flambeau, il était moins présent et je trouve que ça se ressent. Et donc son premier film scénarisé, c'était Jack Mimoun et les secrets de Valverde de Malik Bentala. Donc bon, il y avait mieux, hein, c'est sûr, c'était pas incroyable, hein, malheureusement, même là il n'a pas pu trop sauver la chose. Et ensuite il a scénarisé le Vermine de Sébastien Vanitschek, co-scénarisé avec Sébastien Vanitschek, et donc les deux vont co-scénariser, d'ailleurs c'est ça qui est fou, hein, Flaubert va co-scénariser le spin-off, enfin le prochain Evil Dead, quoi. Donc ça c'est incroyable, hein, vraiment un mec qui vient du YouTube français qui va co-scénariser un Evil Dead, vraiment je trouve ça absolument génial et c'est trop bien qu'on laisse sa chance à nos auteurs comme ça. Et enfin je suis trop trop fier déjà pour Internet, pour la France évidemment, et c'est trop cool. Et donc il arrive en 2024 avec sa première réalisation, Nous les Leroy. Voilà, je vous ai lu le pitch. Alors est-ce que ce film était à la hauteur de mes attentes? Je vous le dis, oui, c'est un film qui était vraiment, vraiment, vraiment à la hauteur de mes attentes. Alors pour le coup, cette thématique de la famille, je me rends compte que petit à petit, qu'elle me touche vraiment beaucoup, beaucoup plus que je ne pensais. En tout cas, ça c'est sûr, hein, j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps devant Tony en famille, j'ai repleuré toutes les larmes de mon corps devant Nous les Leroy. Je trouve le film d'une subtilité, d'une intelligence absolument exceptionnelle. Voilà, qui, en fait, c'est un film qui va me servir, moi, dans un truc que je suis en train d'écrire. Vous avez en fait le synopsis que je vous ai lu. Et en fait, je vous le lis, on a l'impression d'entendre un espèce de road movie, une comédie familiale où le mari va essayer de reconquérir la mère. Et au final, ça va être un film assez feel good où on va se rendre compte que c'est un con, mais c'est la vie, il y a des hauts et des bas, et voilà, les deux vont se réconcilier et tout va bien. Le début, c'est ce que ça vend clairement ce genre de film et ces genres de clichés-là. Sauf que, en fait, le film va prendre un tournant qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'il va pas vers le milieu, vers le milieu, je pense. Vers le milieu, il va s'éloigner de ça. Il y a une scène dans le restaurant, qui est hilarante, on en reparlera, mais qui pour le coup, le personnage de Charlotte Gainsbourg dit un truc au personnage de José Garcia, et le film à partir de là prend une tournure totalement différente, une tournure qui selon moi devait être prise, c'est le processus qui va m'aider et que moi j'ai recherché, que j'ai beaucoup aimé là-dedans, c'est le truc de je te fais croire que c'est un certain type de film et en fait je t'emmène vraiment sur une autre piste, justement détournant les codes et en disant regarde, d'habitude c'est comme ça, ouais mais regarde, moi je te propose ça. Et là pour le coup il y a un message du dans les relations parfois ça s'épuise et la séparation c'est ok. C'est ok de divorcer, c'est ok de ne plus se sentir épanoui, etc. C'est pas pour autant qu'on doit se détester, c'est pas pour autant on doit se faire la guerre, etc. C'est ok. Et pour le coup, je trouve que des visions comme ça, on n'en a pas beaucoup, et c'est des représentations qui, mine de rien, font du bien. Parce que c'est vrai qu'on a toujours ce truc de... le personnage de José Garcia dans le film, c'est pas quelqu'un de très très bien non plus. Clairement, il a ses hauts et ses bas. Ok, à la fin, il se rattrape, mais c'est vrai que pendant tout le film, c'est un peu un connard, très clairement. Pour le coup, il a des réactions qui vraiment sont inacceptables. Et donc, effectivement, si le film avait continué sa tournure du début, j'aurais été extrêmement gêné par le propos qu'il véhicule, mais pour le coup c'est pas le cas. Et donc c'est un film qui dans sa grande force arrive à la fois à être assez drôle, clairement il y a des... Et donc c'est un film qui à la fois arrive à être assez drôle, il y a vraiment des scènes et des vannes très 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 marrantes, et qui dans une deuxième partie va dire là t'as bien rigolé, maintenant je vais venir un peu t'émouvoir et te casser la gueule, et ça évoque des thèmes comme j'ai dit sur la famille, sur le temps qui passe aussi en quelque sorte, le temps qui passe, je parle par rapport aux autres membres de la famille, je pense au grand-père notamment, même aux parents pour le coup, même aux enfants, c'est un truc qui revient tout le temps. Il y a des sous-intrigues qui pour le coup arrivent à exister d'une manière assez remarquable, je pense à la sous-intrigue de Lorelai, qui pour le coup pouvait être extrêmement casse-gueule compte tenu du sujet que ça aborde, mais qui en fait pour moi est réussi et qui j'ai lu que des gens trouvaient que le personnage n'avait pas forcément été au bout de cette intrigue là et que ça aurait pu aller plus loin. Je suis pas d'accord, pour le coup je trouve que c'est pas mal géré, et j'ai surtout beaucoup aimé je crois que c'est Bastien qui s'appelle le fils, j'ai beaucoup aimé ce personnage de Bastien qui moi m'a énormément marqué, parce que c'est vraiment un personnage qui pour le coup est sur une fin de cycle, tandis qu'il va quitter le domicile familial pour partir à la fac, et moi j'avoue que c'est une phase de ma vie que j'ai pas forcément super bien vécu, je pense comme beaucoup de gens, c'était très 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 compliqué au début, je pense que je suis toujours pas, je me suis habitué, je me suis acclimaté et tout, mais je suis peut-être pas autant avancé que ce que je pense, à mon avis, très clairement, il y a ces thèmes là et tout, et puis tous les thèmes qui touchent à la famille, sur le fait de pas forcément dire ses émotions, le fait de d'avoir des relations et tout, la manière dont on dépeint les relations, j'ai l'impression que c'est un film qui en fait a touché beaucoup de gens et je trouve ça assez exceptionnel. Des réalisateurs comme ça, comme Flaubert qui a 32 ans, comme Nathan Ambrosioni, si je dis pas de bêtises, pour Tony en famille, qui avait à peine plus que la vingtaine quand il a écrit le film. Je trouve que c'est des gens qui arrivent à avoir une justesse d'écriture sur des thèmes ou des situations dans lesquelles ils sont pas forcément encore, en fait. Et moi, ça me claque la gueule. Vraiment, ça me claque la gueule et ça m'impressionne. Cette qualité d'écriture. Alors, Flaubert, c'est un auteur de génie, je vous l'ai dit, on le savait, mais je trouve qu'il illustre parfaitement là-dessus. En termes de propos, pour moi, il est juste. Et en termes d'émotion, en termes de rythme, aussi, pour le coup, il est très juste. Je me souviens pas m'être ennuyé devant le film, si ce n'est peut-être au début où je me suis dit, c'est quand j'avais cette petite crainte de si le film continue comme ça, ça va quand même être un petit peu compliqué, mais ça le fait pas, donc au final tout va bien. Et ouais, vraiment bah, super, super vraiment touché par ce film qui, comme je dis, m'aura fait vraiment, vraiment beaucoup pleurer. Je vais terminer sur l'écriture, après je passerai à un autre aspect, mais c'est aussi un film qui est extrêmement référencé. Voilà, je vous l'ai dit, Flaubert, il vient d'Internet, ça se sent dans le film. Il y a Justine Potier, il y a Adrien Méniel, il y a Vincent Tirel, il y a Baptiste Le Caplin, il y a Jérôme Niel aussi, voilà, qui a une scène très, très drôle. Moi, j'ai beaucoup aimé bah, Adrien Méniel, hein, clairement, cette scène dans le restaurant qui est absolument, absolument hilarante, mais vraiment hilarante, de ce serveur assez lourd, etc. et tout, enfin bref, génial. Je sais pas ma scène préférée du film, parce qu'il y a la scène entre Charlotte Gainsbourg et Simon Astier qui est vraiment qui est vraiment génial pour le coup, dans ce gendarme joué par Simon Astier, vraiment absolument hilarant, je trouve. Ouais, en gros, c'est dans la bande-annonce, hein, il lui dit, en gros, elle veut craquer, elle en a marre, elle lui dit, mordez le volant, ça fait du bien, allez-y, mordez le volant. Et en fait, en mordant le volant, elle fait un cri, et là, Simon Astier se met à faire du Jonathan Cohen en mode, waouh, le cri est terrifiant. Bref, et c'est des trucs qui m'ont vraiment fait super rire. Enfin voilà, des scènes, des timings comiques, des tempos comiques qui sont vraiment bien respectés. Et voilà, encore une fois, Flaubert, voilà, je vous l'ai dit, hein, il a toujours ce truc-là bah, dans le comique et tout. Et il nous a montré aussi que bah, il savait faire du dramatique également. Voilà, il avait les deux. Donc ouais, bref, c'est un auteur, un scénariste hors pair. Après, il nous l'avait déjà montré avec Vermine, hein, pour le coup, c'était bah, autre chose. Mais voilà, bref, on savait que c'était un scénariste hors pair. Mais au-delà de ça, enfin parce que ça, on le savait, hein, pour le coup, ça fait plusieurs années qu'on a accès à ce qu'il écrit, on l'a surtout découvert en excellent directeur d'acteur. Et ça, je tiens vraiment à le souligner, je tiens à vraiment bah, voilà, accentuer ça, parce que je trouve que tout le monde joue bien dans ce film. Tout le monde joue bien dans ce film. José Garcia, c'est vrai que ça dépend vraiment beaucoup des films, hein, pour le coup. Je ne suis pas du tout fan du bonhomme dans tout ce qu'il fait. Je pense à des trucs vraiment moyens et où il était assez mauvais. Hein. Moi, il m'avait énervé dans Astérix et Obélix. C'est vrai que c'était une des rares qualités de 30 jours max. Hein. Et encore, qualité, c'est bien dit, c'est un bien grand mot. Il y avait Canaille, mais Canaille, c'était absolument nul à chier. Voilà, notamment. Donc bref, non, franchement, il y a pas mal de moments où globalement José Garcia, voilà, c'est un peu fluctuant, mais pour le coup dans ce film il est tout le temps juste. Vraiment, on sent que Flaubert, en tout cas à l'écriture et dans sa direction, a parfaitement intégré qui étaient ses acteurs, leur manière de fonctionner, etc. Je vous le dis, je suis aussi comédien, vraiment j'aimerais beaucoup avoir un réalisateur comme ça, parce qu'on sent vraiment qu'il connaît ses comédiens et qu'il sait exactement comment les diriger. Et on peut se dire, bah c'est normal, que ce soit José Garcia ou Charlotte Gainsbourg, qui est absolument formidable dans ce film et qui est super émouvante, de toute façon, qui est une actrice qui est d'une douceur incroyable, hein. Moi j'avais adoré notamment Les Passagers de la Nuit récemment, bref, elle est encore absolument géniale. Et en fait, ouais, on peut se dire, bah c'est normal, c'est des acteurs connus, donc leur style d'acting, ils sont plus non plus tout jeunes, José Garcia et Charlotte Gainsbourg, non pas qu'ils soient vieux, mais pour le coup, ils ont quand même pas mal d'années de carrière derrière eux. On peut se dire que, bah, ouais, c'est des styles qui sont connus. Mais en fait, la particularité aussi de ce film, c'est que sur les enfants, il va prendre un acteur et une actrice qui, pour le coup, ne sont pas connus. Voilà, pour Jean-Bastien et Lorelei, ce sont Lily Aubry et Adrien Holm. Ce ne sont pas des acteurs qui ont forcément déjà beaucoup joué avant. Et en fait, on sent quand même qu'il arrive à s'adapter à eux, on sent qu'il arrive à parfaitement les guider. Et ça, c'est, je trouve, une grande, grande, grande qualité de ce film, au-delà d'écriture, c'est la direction d'acteur. Et c'est pas donné à tous les réalisateurs, donc vraiment, je dis chapeau. Maintenant, si je devrais... Voilà. Maintenant, si effectivement, je devais reprocher un petit truc au film, ce serait, sa réalisation qui est qui est correct, hein, franchement, qui est assez sympa, sauf à des moments où effectivement des fois le montage s'emballe un peu, je trouve, sur certains plans, mais sinon c'est des petits détails, voilà, c'est juste pas quelque chose qui est absolument révolutionnaire, voilà, dans la forme, hein, voilà, qui est pas transcendant, qui reste une réalisation correcte, voilà, mais pour le coup moi je juge au même niveau le fond et la forme, et pour le coup pour moi, des fois, je lis au même niveau le fond et la forme. Ça veut dire que parfois, les deux peuvent se compenser. Voilà. Je ne suis pas en train de dire à chaque fois le fond prime sur la forme ou la forme prime sur le fond. Mais des fois, le fond est tellement bien que le film va être vraiment très impressionnant. Voilà. Et des fois, c'est l'inverse. Donc, effectivement, c'est des choses qui peuvent se compenser parce que ça va ensemble. Un film, ça fait partie des deux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est pas de savoir si le fond ou la forme est bien, c'est comment vous arrivez à lier les deux. Et pour le coup, c'est peut-être un petit peu moins impressionnant sur sur la forme, mais le fond est là. Donc franchement, voilà, film très 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 satisfaisant. Et pour le coup, je vous le recommande fortement. Et bref, voilà, j'espère que vous serez émus comme moi. Voilà, et c'est j'ai oublié de mentionner aussi dans les références Maxence qui fait la chanson du générique, que j'ai reconnu aussi au générique, parce qu'il a une voix tellement reconnaissable et tellement douce sur une chanson qui s'appelle L'histoire est belle. Et je pense que voilà, ça résume bien ce film, L'histoire est belle. Et je pense que j'en terminerai là. Allez, c'était plutôt long, hein, mais en même temps, j'ai adoré le film, donc forcément, je me devais de vous en parler. On reste dans la thématique premier film, hein, puisqu'on va parler de Monkey Man de Dev Patel.
Mario.
Ladies and gentlemen, are you ready for a fight?
1, 2, 3.
Un jeune homme gagne péniblement sa vie dans un club de combat clandestin où, nuit après nuit, portant un masque de gorille, il se fait battre par des combattants plus populaires pour de l'argent. Après des années de rage refoulée, il découvre un moyen d'infiltrer l'enclave de l'élite de la ville. Alors ça, c'est vraiment le début du film, et pour le coup, je vous avoue que, à titre personnel, moi, ce début m'a un peu laissé perplexe. C'est vrai que pendant longtemps, j'étais en train de me demander, mais dans le fond, qu'est-ce que le film va me raconter ? J'étais incapable pendant une très longue période du film d'arriver à comprendre en fait la structure scénaristique du récit. C'est-à-dire qu'il se passait des trucs et je me disais, mais pourquoi ? Dans quelle finalité ? Dans quel but ? Voilà, et c'est vrai que ça met un petit bout de temps arrivé. Je pense que c'est tout le premier tiers du film, hein, moi, avec lequel j'ai globalement un problème, où je trouve que c'est quand même très 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 long, où ça aurait pu être beaucoup plus court, beaucoup plus efficace. Voilà, là je trouve qu'il y a une installation qui est trop lente. Et en fait, c'est ça qui est paradoxal, qui est trop lente, qui prend vraiment beaucoup de temps, mais qui n'est pas du tout efficace là-dedans, en fait. Voilà, c'est ça qui est paradoxal. Donc, effectivement, il y a ce truc-là qui est, je trouve, un petit peu quand même dommage, vraiment. Au début, m'a fait me laisser perplexe, et je me dis, c'est dommage, parce que Dev Patel, c'est quand même un acteur qui est génial, qui est très 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 bon, on l'a apprécié dans beaucoup de films, hein, et pour le coup, passer derrière la caméra et se dire je réalise mon premier film, c'est super intéressant, c'est vraiment super intéressant, on ne demandait qu'à voir ça, et pour le coup, quand ça commence et qu'on se dit bon, ça part pas très 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 bien, c'est inquiétant. Néanmoins, ce que j'ai quand même dit en faisant mon retour, et d'ailleurs je remercie les équipes presse d'Universal pour avoir permis de découvrir ce film en projection presse, mais je répète ce que j'ai dit dans mon retour, c'est un film qui au début, c'est un peu lent, qui quand même va réussir à se rattraper, voilà, qui va vraiment réussir à se rattraper dans son scénario, voilà, et aussi notamment, et c'est ce que je disais par rapport à Noël le Roi, c'est comment on allie le fond et la forme, aussi notamment grâce à sa forme, puisque en fait il va proposer une mise en scène de scène d'action qui en fait globalement donne enfin aussi un petit peu un sens à l'histoire, parce que c'est un film qui est éminemment politique. Pour vous raconter la petite histoire de ce film, c'est un film qui a eu beaucoup de mal à se faire produire en fait. De mémoire, c'est Netflix à l'origine qui produisait, sauf qu'en fait il y a une dépiction de mouvement d'extrême droite indien, et donc en fait Netflix globalement a eu peur des réactions quant à ça, c'était un petit peu trop mouillé pour eux, on va dire. Je vais vérifier si c'est Netflix, hein, pour le coup, je veux pas dire de bêtises. Toujours est-il que ça, j'en suis sûr, au final c'est Jordan Peele qui est venu et qui a repris le film, donc voilà, ça donne quand même aussi une petite indication, hein, sur la nature du film, hein. Et puis voilà, Jordan Peele, on sait que c'est quand même du cinéma très politique, hein, qui fait. Donc oui, c'est un film qui est éminemment politique, hein, qui parle de la montée de l'extrême droite en Inde, on le sent, hein, globalement, Dev Patel est pas trop ok avec ça, hein, du coup c'est quand même dans une nature qui est très différente, hein, mais je trouve qu'il y a un procédé qu'on avait vu notamment dans The Sadness, hein, vraiment utiliser une violence extrême pour venir parler d'une situation politique terrible, avec laquelle on est en désaccord, qui pour le coup est totalement le cas de Dev Patel ici, hein, qui va clairement faire ça. C'est un film qui, franchement, faut s'y attendre, qui tâche vraiment dans les scènes d'action, hein, qui a des scènes d'action, mais d'une mise en scène qui est géniale, hein, il vient amener ses idées à lui, et en même temps, il y a des inspirations, en tout cas, moi j'ai vu des inspirations sur, pour moi, ce qui a été fait de meilleur dans les films de ce type, en partie, notamment les films d'action ces dernières années, je pense notamment à John Wick, c'est une inspiration évidente, hein, même quand on voit parfois certaines tenues du personnage de Dev Patel, hein, pour le coup, inspiration évidente de John Wick, hein, très clairement. Et je trouve qu'il y a des scènes qui, moi, m'ont rappelé, par exemple, des Kingsman, notamment, voilà, des mouvements de caméra, une certaine proximité parfois, qui m'ont pu me faire un petit peu penser à la scène de l'église, voilà, de Kingsman, par exemple. Donc oui, effectivement, c'est un film qui va utiliser des références absolument géniales, voilà. Le chorégraphe du film des cascades a travaillé notamment avec Jackie Chan, avec Jean-Claude Van Damme notamment. C'est quand même des choses qui sont pas anodines, qui sont à relever, tout simplement. Et ouais, c'est un film qui, donc, du coup, je trouve, fonctionne très très bien, justement parce qu'il a une très très bonne mise en scène, et qu'en fait on sent justement là où effectivement The Sadness, je trouve que c'est plutôt sous-jacent. Là, pour le coup, c'est explicite, hein. On a vraiment cette espèce de gourou, voilà. Et puis aussi, il y a ce truc là très intéressant, hein, sur l'effet de groupe, sur comment des mouvements extrémistes, hein, qui pour le coup peuvent paraître absolument abjects dans leurs idées, on se dit ouais, mais personne va les suivre, bah justement comment ils arrivent à faire en sorte que les gens les suivent, il y a aussi de ça, voilà. Donc pour le coup, il y a ce truc là que moi j'ai trouvé très très intelligent et très intéressant. Et effectivement, c'est lié, comme je l'ai dit, avec ces scènes d'action absolument violentes qui sont vraiment très 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 fortes, en termes de mise en scène notamment, et pour le coup que moi j'ai énormément énormément apprécié. Donc ouais, c'est un film qui est très intelligent, c'est un film qui, comme je vous le dis, arrive à lier ces deux aspects, hein, son fond et sa forme, qu'il fait d'une manière, je trouve, plutôt remarquable. C'est vraiment juste dommage qu'il y ait ce début qui soit vraiment trop long à mon goût, et où on comprend pas forcément. Sinon c'est soigné esthétiquement, hein, franchement, une mise en scène top. Et je voudrais bien rajouter quelque chose très rapidement, sur le propos politique, c'est qu'on a vraiment un procédé, moi, que j'aime beaucoup aussi au cinéma, qui est utilisé notamment dans le Snowpiercer de Bong Joon-ho. C'est qu'en fait, plus vous avancez dans Snowpiercer, c'est un train, donc plus vous allez à l'avant, plus c'est les riches. Là, pour le coup, c'est dans un espèce d'hôtel où, en fait, c'est pas un espèce d'hôtel, c'est un hôtel où il y a des fois des réunions de tous les grands riches, etc. Et donc, lui, il commence en bas dans la cuisine, donc au plus bas, vraiment comme limite exploité, etc. Et en fait, petit à petit, il y a ce truc où plus il va monter et gravir les échelons, plus il va tomber sur des personnes riches, des personnes corrompues, des personnes qui ont fait des choses, voilà. Et donc en fait, il y a ce truc là, ouais, de vraiment cette symbolisation de l'échelle sociale et des dominations sociales à travers un bâtiment, à travers un concept que moi j'apprécie beaucoup, qui est un procédé que j'apprécie beaucoup. Et pour le coup, je trouve que Dev Patel le fait très bien. Donc voilà, c'est un très très bon, très sympa comme premier film. Je ne mettrai pas, je pense, dans le top de l'année non plus. Néanmoins, c'est des débuts réussis, et ça va paraître peut-être bizarre, hein, après avoir dit ça, mais j'aimerais bien le voir dans un autre gis, du coup, parce que là c'est vrai que c'est quand même très ça s'attache, hein, comme j'ai dit, hein, vraiment c'est d'une violence plutôt pas mal. Le film au moins 12 avec avertissement, au moins de 16 ça m'aurait pas choqué, pour être honnête, comme très violent. Et du coup j'aimerais bien le voir dans un autre gis maintenant, voir s'il a autre chose à me proposer. Non pas que j'ai pas du tout aimé ça, hein, mais juste pour le coup on a vu ce que ça donnait là-dedans, c'était super. Maintenant effectivement, s'il va enchaîner que des films comme ça, ça va être plutôt éprouvant à regarder ces films. Donc ouais, pourquoi pas éventuellement le voir dans un autre registre, ça m'intéresserait. Toujours est-il, voilà, que c'est quand même un film que je vous conseille.
Allez, on va maintenant passer au film suivant, qui n'est pas du tout un premier film, hein, pour le coup, qui est plutôt un quatrième film. C'est un film qui pour le coup était quand même assez événement, assez attendu, puisqu'on va parler de Civil War d'Alex Garland.
Every time I survived the war zone, I thought I was sending a warning home. Don't do this. But here we are.
There's some kind of misunderstanding here.
What?
Well, you're American, okay?
Okay. What kind of American are you?
Une équipe de journalistes parcourt les États-Unis en proie à une guerre civile sans précédent. Ces derniers ne sont alors qu'armés de leur matériel. L'armée américaine, de son côté, est chargée de tirer à vue sur les reporters. Donc, je me permets de compléter vite fait. C'est donc cette équipe, tout ce que je vous ai lu, en fait, et le contexte, c'est qu'on leur dit, si vous arrivez les premiers à Washington, vous avez une interview du président, qui vous sera accordée, qui est en jeu. Donc, l'enjeu est important d'arriver très très tôt. Pour le coup, voilà, donc, oui, effectivement, c'est un un film voilà, qui était très attendu. Hein. Alex Garland, c'est un cinéaste qui voilà, n'en est pas à son coup d'essai. Hein. Je pense à ses films précédents, Ex Machina, Annihilation et Men. Voilà, mais c'est vrai que c'est aussi un film qui a quand même, qui a quand même déchaîné les passions, hein, notamment avec Men. C'est un film qui avait été très, très, très critiqué. Voilà, qui avait eu un accueil vraiment mitigé, hein, pour le coup. Voilà, si c'est effaçant totalement, je trouve, la subtilité de son propos. Voilà, et même s'il y avait de vraies qualités esthétiques, hein, pour le coup. Et donc, ouais, Civil War, c'est vrai que ça vient, je sais pas, ça vient. Comment dire, c'est on avait envie, mais en même temps on appréhendait un petit peu de voir ce film. Voilà, pour le coup, je vous le dis, moi, comment je fonctionne sur les projections presse, les films où je sais que je ne vais pas aimer, je n'y vais pas. Voilà, parce que je considère que ça n'a pas forcément d'intérêt de venir défoncer des films, surtout des fois c'est des films qui des films, des petits films, quoi, entre guillemets, qui ont des sorties qui sont parfois très limitées. C'est vrai que vous leur donnez une mauvaise critique, ça les dessert, donc effectivement. Voilà, ou alors c'est des, au contraire, hein, c'est des gros films, genre les biopics, etc., type Bohemian Rhapsody. C'est des films où je sais pertinemment que ça ne va pas me plaire, donc ça m'intéresse pas forcément de voir en projection presse. Donc voilà, quand je dis que j'ai vu un film en projection presse, d'ailleurs, je remercie, voilà, je le dis maintenant, les équipes de Mensch et de Darkstar de, voilà, pour avoir permis de découvrir ce film en projection presse. Mais donc, oui, dès que je demande un film automatiquement en projection presse, c'est que j'ai un intérêt vraiment pour ce film, voilà, et que il m'intéresse, et je me dis, ok, ça peut être intéressant à aborder en podcast. Donc, si je l'ai demandé, c'est que, voilà, pour le coup, j'en attendais quelque chose. Et vraiment, j'ai pas été déçu, je me mettais très agréablement surpris par ce film. Voilà, il prend. Kirsten Dunst, qui est une actrice absolument, absolument géniale, hein, vraiment, qui pour le coup est, voilà, une actrice de talent, voilà, absolument incroyable, hein, comme si vous ne le connaissez pas, c'est la muse, entre guillemets, l'actrice fétiche de Sofia Coppola, voilà, qu'on a pu voir dans beaucoup de ses films, hein, comme notamment Virgin Suicides, Marie-Antoinette, et c'est la Mary Jane Watson des Spider-Man de Sam Raimi, surtout, donc, enfin, toute mon enfance, vraiment, j'ai grandi avec, hein, pour le coup. Et en fait, elle a fait une interview un petit peu triste quand même, où elle disait que on lui proposait que des rôles de maman déprimée, etc. et tout, toujours les mêmes rôles dans les stéréotypes. Et en fait, elle disait que ce rôle-là lui avait fait énormément de bien, et je trouve que ça se sent à l'écran. Je trouve que on sent que vraiment ça lui fait du bien, ce projet, voilà, d'avoir ce rôle là ça lui fait du bien, dans ce rôle de cette journaliste extrêmement connue, voilà, cette photographe de guerre qui prend sous son aile une apprentie, entre guillemets, voilà, c'est son rôle lui fait vraiment beaucoup de bien, voilà, je trouve que c'est une très bonne chose qu'elle ne soit pas forcément caractérisée par rapport à son âge, même si bien sûr il y a cet élément de l'expérimenter, du coup c'est elle qui prend sous son aile la jeune reporter jouée par Kylie Spinney, mais on en reparlera, mais sinon, ouais, c'est pas ça qui définit son personnage, et vraiment son personnage existe en tant que tel, et pour le coup, voilà, c'est je pense effectivement que oui, que ça a dû lui faire du bien. Et on l'a dit, hein, il y a aussi Kylie Spinney, donc qui est une des nouvelles étoiles montantes, hein, d'Hollywood, hein, on a pu la voir cette année dans le Priscilla de Sofia Coppola, hein, pour le coup, voilà, où elle jouait Priscilla, voilà, la femme d'Elvis, notamment avec Jacob Elordi, voilà. Et c'est vrai que ouais, c'était déjà Priscilla, c'était très 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 perturbant, pour le coup. J'avoue que quand j'ai vu qu'elle avait 25 ans, je n'en revenais pas, tellement en fait son jeu est crédible en tant que cadeau, voilà, dans Priscilla. Après, c'est vrai qu'elle a une taille quand même, elle est assez petite, hein, surtout comparée à Jacob Elordi, mais bref, en fait elle joue le truc trop bien, elle a vraiment ce truc, voilà, elle joue trop bien. Et là on la voit dans un registre, je trouve, totalement différent, pour le coup, où elle est elle est aussi dans ce rôle de jeune, hein, pour le coup, de jeune apprenti, voilà, qui va un peu découvrir la vie, etc. Mais pour le coup, je sais pas, je trouve pas du tout ça dans le même registre que Priscilla. Je trouve pour le coup que malgré son rôle de jeune, voilà, ça apporte une nature différente. Là, pour le coup, on sent un personnage beaucoup. Enfin, quand même très très adulte, même dans sa manière de découvrir son environnement, même dans son apprentissage. Voilà, ça reste un apprentissage qui est quand même très 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 adulte. Voilà, donc effectivement, c'est quelque chose de pas mal et de réussi sur ce point-là. Voilà, donc ouais, non, c'était très intéressant d'avoir dans un registre différent. Ça fait du bien, je trouve. En tout cas, donc voilà, très 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 beaucoup de bons rôles, hein, d'ailleurs, là-dedans, je trouve. Voilà, maintenant, le jeu. Je je vais le dire maintenant. Je sais pas si c'est la plus grande qualité du film, mais le son est absolument exceptionnel. Voilà, on l'a vu dans une salle avec Dolby Atmos et ça avait son importance. Il y a un travail sonore qui est absolument monumental sur les coups de feu, sur les ambiances de guerre. Vraiment, c'est on pouvait sursauter à chaque effet sonore en fait, tellement c'était bien fait. Donc vraiment chapeau au tout le travail du son, parce que franchement, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Voilà, pour le coup, je serais pas surpris vraiment de le voir nommé aux Oscars dans cette catégorie. Gorilla pour le coup l'an prochain, parce que vraiment le travail est exceptionnel. Vraiment c'est le genre de film qu'il faut voir en salle avec un système son absolument génial et bien réglé. Moi comme d'hab, hein, si vous écoutez ce podcast, vous savez le cinéma que je vous conseille tout le temps, hein, qui pour le coup qui a un des meilleurs systèmes son, je trouve, en tout cas sur Paris, c'est le Max Linder Panorama, hein, pour le coup. Il me semble qu'il passe Civil War, donc si vous voulez aller voir Civil War avec un son de fou, allez au Max Linder, son et image d'ailleurs, hein, voilà. Sinon bon bah effectivement Dolby Cinema c'est pas mal, IMAX c'est pas mal, mais bon c'est quand même un petit peu cher, on va pas se le cacher. Donc le Max Linder c'est une très 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 bonne alternative, donc voilà, n'hésitez pas à aller au Max Linder pour voir Civil War. Sinon très 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 bon film, très perturbant et en même temps qui fait beaucoup réfléchir sur les parties esthétisation de la guerre, je trouve, parce que il y a un côté où vous verrez, si vous allez voir le film ou si vous l'avez vu, il y a un côté très 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 esthétique dans ce film, vraiment dans les photographes de guerre, hein, pour le coup, qui cherche autant à documenter, je trouve, qu'à faire des photos quand même un minimum artistique. Voilà, ce qui donc va donner des photos qui sont quand même très belle, hein, pour le coup, hein, qui y a un certain noir et blanc qui est magnifique aussi, mais qui est quand même perturbant parce que ça reste des scènes de guerre, quoi. C'est quand même assez compliqué. Et donc ça, on va le retrouver dans les photos, mais on va aussi le retrouver dans les images, hein, pour le coup. Il y a une photo qui est absolument splendide, hein, pareil, ça dépend de ce qui va sortir par la suite, mais il y a un monde où ça peut se retrouver aussi, nommé dans les cérémonies de récompense et tout. C'est cette photographie-là, vraiment cette esthétisation. Vraiment poussé au bout des scènes de guerre, je trouve que ça colle parfaitement avec le propos dont on va parler tout de suite. Et donc justement sur le propos politique, hein, vraiment on attendait quand même au tournant parce que c'est dans le pitch du film, hein, c'est dans son titre, Civil War. Effectivement, on a une guerre civile qui a éclaté aux États-Unis, globalement le film part de ce principe-là, et donc les personnages évoluent à travers cette guerre civile. Du coup, oui, effectivement, ça fait globalement réfléchir, hein, sur ce que c'est qu'être reporter journaliste de guerre, hein, clairement. Ça nous fait réfléchir sur la violence également aussi. Ça fait politiquement, c'est quand même très 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 intéressant. Maintenant, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est justement tout ce propos autour de la guerre, hein, forcément c'est le sujet principal du film, mais donc comme je vous l'ai dit, ouais, il y a cette forte esthétisation qui pour le coup est top, hein, franchement, qui en tout cas je trouve très très réussie parce qu'elle est très perturbante. Et autre chose qui est très perturbant, c'est la banalisation de cette guerre. Pour le coup, on est dans une banalisation mais des plus totales, ça fait maintenant partie de leur quotidien. C'est-à-dire que voilà, aussi si on se permet de décétiser autant et tout, c'est que ça fait partie de leur quotidien et les personnages sont plus du tout choqués. Alors le personnage de Kylie Spinney, si, va être choqué parce que forcément elle est nouvelle dans ce milieu-là et tout, et qu'elle débute, mais tous les personnages qui ont l'habitude, voilà, ne sont plus du tout choqués, et il y a vraiment cette banalisation-là. Et en fait, tout le film se déroule dans ce cadre-là, et il y a un truc mais qui est génial, je trouve, comme concept. À un moment, c'est juste un truc où ils vont dans un village, et en fait le village n'est pas du tout concerné par la guerre. Dans le village, ils sont limite pas au courant qu'il y a une guerre, en fait. C'est un truc en marge de tout, etc. Et c'est trop intéressant, parce que du coup, en fait, même en tant que spectateur, c'est eux qui vraiment apparaissent comme les gens qui sont, entre guillemets, bizarres et qui sont dans une situation qui n'est pas normale. Parce qu'en fait, le film nous a tellement habitués à ce climat de guerre permanent que quand il y a ce truc normal, on fait « Waouh, putain, c'est quoi ça ?» Bref, on est dans la même réaction que les personnages, en mode « Mais... excusez-moi, vous vivez dans le même monde que nous, quoi. Enfin, vous êtes au courant que... » En fait, c'est juste des gens qui se disent « Ouais, on va faire comme s'il n'y avait pas la guerre. » Et c'est fou. Et voilà, et pour le coup, moi je pense que je suis les personnages, je reste dans ce village-là, je reste avec eux, très clairement. Et voilà, donc ouais, cette scène, je la trouve super intelligente, très 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 bien trouvée. Et en même temps, il y a voilà, un truc sur le développement de personnages de Kirsten Dunst, pardon, je vais y arriver. Et voilà, en même temps, dans cette scène-là, donc ouais, je la trouve très 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 intelligente. Donc ouais, il y a cette banalisation qui m'a beaucoup marqué, qui je trouve... est très intéressante. Et après il y a ces scènes à la fin, voilà, à Washington, hein, l'aboutissement, voilà, l'apothéose, j'ai envie de dire. C'est quand même un film qui a pas un budget, hein, qui est énorme, hein. C'est un film 24, hein, il a 50 millions de budget, comparé à certains films c'est rien, c'est franchement pas beaucoup. Et pour autant, je trouve qu'il a des effets visuels qui sont franchement pas mal. Alors bon, bah, des fois, on remarque ces effets visuels quand même. Hein, mais il a des effets visuels qui, pour le coup, sont franchement pas mal par moment. Voilà, et que personnellement, j'ai beaucoup apprécié. C'était plutôt voilà, sympa. Et ouais, je pense que c'est un des films, voilà, où techniquement... A24 a essayé de le plus pousser, voilà, pour le coup, notamment, bah, justement, comme je l'ai dit, avec ses effets visuels très réussis, voilà, pour le coup, ouais, c'est peut-être pas le plus ambitieux, hein. Je pense qu'il y a quand même eu cette dinguerie qui est Boys Afraid, je sais pas si vous vous rendez compte de ce truc, quoi, vraiment, juste proposer ça, c'est quand même absolument, voilà, fou, voilà, mais ouais, c'est peut-être pas le plus ambitieux, néanmoins, voilà, je trouve que ça reste... quand même un des plus audacieux, voilà, sur le plan technique, et pour le coup, ouais, c'est un film qui est très sympa, qui tient son propos, bah, vraiment jusqu'au bout, voilà, et qui, ouais, tout dans la cohérence, pour le coup, voilà, moi, m'a eu, hein, entre guillemets, hein, qui a réussi à m'embarquer dans son histoire, notamment à cause de cette immersion et du son qui est incroyable, voilà, et puis j'ai adoré le duo principal du film, et ouais, pour le coup, pour moi, voilà, en tout cas, je reste sur un truc où, pour le moment, j'aime plutôt bien le cinéma d'Alex Garland, voilà, et pour le coup, bah, Civil War fait absolument pas exception à la règle, donc moi, pour ma part, je vous dirais d'aller voir Civil War, parce que c'est un très bon film. Allez, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, voilà, pour le coup, on a parlé quand même de bons films, hein, voilà, j'avoue que je pense que si je devais faire un classement, je mettrais Nous les Rois, Civil War et Monkey Man après, voilà, après ça reste quand même, voilà, dans tous les cas, des bons films, hein, si ce n'est des très bons films pour certains, donc voilà, j'étais très content de vous faire cet épisode. Donc voilà, j'avoue que bon, bah, mon mois d'avril, ma fin de mois d'avril va être très 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 chargé, très clairement, avec les partiels et tout, enfin ça va être très compliqué. Néanmoins, je vais quand même essayer de vous sortir un épisode fin avril, sinon vous inquiétez pas, en mai il y a du très 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 gros qui arrive, je continue de teaser, voilà, je l'avais peut-être annoncé d'ailleurs, je ne sais plus, bref, dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à le partager et à parler du podcast autour de vous si c'est le cas. Et donc, pour ma part, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.